Bonjour et bienvenue dans le débat politique de Radio Ndikeluka. Patara délocalisé ici à Birawo, chef-lieu de la Vakaga, distant de 1078 km de Bangui, avec nos invités sur place et dans le studio de Radio Communautaire Yata, Radio Sœur de Birawo. Nous allons passer en revue les mots qui minent le quotidien des Centrafricains de cette partie du pays. Les conflits intercommunautaires à répétition fragilisent le vivre ensemble et mine le développement de la Vakaga, cette région considérée par ses ressortissants comme abandonnée par Bangui, peine à retrouver sa quiétude d'antan. Par exemple, il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il y ait un braquage dans la préfecture de la Vakaga. À titre d'illustration, les agents de l'ANEA ont été dépouillés de tous leurs biens matériels au parc de Monovo, Ganda, sur l'axe Ndélé-Birao. L'acte s'est produit dimanche dernier. Question, que font les autorités locales pour assurer la sécurité de la population de cette région? Qu'est-ce qui justifie les multiples conflits intercommunautaire, bien sûr, à Birawo? Que faire pour encourager les fonctionnaires et agents de l'État à regagner leur poste? Est-ce que les habitants de Birawo se sentent vraiment chez eux? Quel est l'avenir de Birawo? Voilà tant d'interrogations qui feront l'objet de Patara, délocalisé ici à Birawo. Et pour en débattre, nous recevons autour de ce plateau du studio de Radio Yata, Madame Attache Fatimé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, vous êtes femme leader de Birawo, Mahamat Abras, bonjour.
Merci, monsieur.
Bonjour à vous, ancien député de Birawo de 2005 à 2010, ancien chargé de mission du DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, et ancien attaché consulaire de l'ambassade de la République centrafricaine à Niala au Soudan, lieutenant-colonel Léonard Mbélé, bonjour.
Bonjour.
Préfet de la Vakaga, représentant du gouvernement légalement ici dans cette région. Et nous sommes en ligne depuis Bangui avec Martin Zigeli, président du MLPC, membre de l'opposition démocratique. Monsieur Zigeli, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur Armando, bonjour toutes vos auditrices et tous vos auditeurs, surtout de la Vakaga. Bonjour à mes co-débatteurs, monsieur le préfet, madame Fati et l'honorable député, l'ancien député de Birawo.
Merci Armando, donc il dit c'est moi, salam alaikum, afé. Shukran, Patara, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndikeluka.
Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Ouvrons ce débat avec vous, monsieur le préfet. Quelle est la situation sécuritaire dans la préfecture de la Vakaga en ce moment?
Merci, monsieur Ndikeluka.
Et Armando.
Armando, bien sûr. Avant de répondre rapidement à votre question, je voudrais brièvement situer la préfecture de la Vakaga. La préfecture de la Vakaga, à l'extrême nord, fait frontière avec deux pays voisins, à savoir le Soudan et le Tchad. La préfecture de la Vakaga est située à 1300 km de Bangui. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons eu une crise généralisée dans la République. Tout cela, le fief de ce départ de cette crise, c'est dans la Vakaga. Donc depuis 2012, 2013, tout ça, c'est dans la Vakaga. On avait vraiment du mal. La population était totalement abandonnée, selon ce que j'ai recueilli de la population de la Vakaga, parce que je suis là dans la Vakaga, ça fait 4 ans aujourd'hui. Donc cette population s'est dit abandonnée par la portion centrale. Abandonné pour cette population, c'est par rapport à l'état de la route, c'est par rapport aux infrastructures, c'est par rapport aux fonctionnaires qui ne venaient pas, c'est par rapport à quelques points saillants. Alors, depuis la session du président de la République, monsieur Faustin-Archange Touadéra, en 2016, les choses ont franchement changé. Changé dans quel but? Vous savez, c'est un monsieur qui est vraiment tendu la main. C'est un monsieur qui veut que les centrafricaines puissent rester autour d'une table pour en débattre de leurs problèmes nationaux. Et c'est un monsieur qui a voulu prendre tous les Centrafricains autour de lui pour le pouvoir. Donc,
selon vous, la situation actuelle dans la ville de Vakaga, la sécurité est plus ou moins améliorable?
Je vous dis pour le moment, ça va, parce que si vous parlez de l'insécurité, ça date pas d'aujourd'hui, hein. L'insécurité, c'est depuis les régimes qui se sont succédés, il y a eu insécurité. Mais à partir de 2016 jusqu'à ce jour, je pourrais vous démontrer qu'il y a amélioration.
On va écouter Madame Fatimé, qui représente les femmes dans ce débat d'aujourd'hui. La population de Birao est-elle à l'abri de sécurité comme il se doit en ce moment, madame?
Bon, pour le moment, ça va un peu. Par avant, il y avait vraiment d'insécurité, mais maintenant, il y a beaucoup de changements. Mais c'est que les femmes ici souffrent parce qu'ils n'ont pas de priorité comme ils veulent. Il y a des femmes commerçantes, il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route même pour acheter des marchandises ici, amener vers Bria, aller vendre, acheter là-bas, amener ici, ils ont des problèmes.
Et même s'il y a la route, mais aussi sur cette route, hein, l'exemple des agents de l'ANEA qui ont été interceptés, tombés dans le filet des groupes armés ou bien des présumés malfaiteurs sur cette voie.
Mais voilà, il y a l'insécurité vers là-bas, mais nous ici, précisément à Birao, il n'y a pas de problème. C'est en route là-bas qu'il y a le problème. Donc, il faut que les femmes évoluent dans les commerces, dans la culture, beaucoup de choses. Mais on n'a pas vraiment accès parce qu'il y a beaucoup de manquements. Il y a vraiment beaucoup de manquements.
Vous parlez de manquements, entre autres, pouvez citer. Hein?
Les femmes ne peuvent pas sortir, aller acheter les marchandises et venir comme les autres femmes qui parlent Cotonou, partout pour acheter, amener. Nous, on n'a pas l'accès pour faire ça parce qu'il n'y a pas la route. Et par voie aérienne et par la route avec les camions. Donc, c'est un peu pénible pour nous.
Qu'est-ce qui justifie le cycle persistant de l'insécurité dans la Vakaga, M. Abras, selon vous?
Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Sincèrement, comme disait auparavant, au début de son intervention, mon colonel, le préfet, commandant région de la Vakaga, la situation ici que nous déplorons, c'est surtout, l'étendue de la Vakaga est si vaste, une préfecture si vaste. Après la Haute-Coteau vient la Vakaga. Mais toutes les lignes qui mènent, toute la route qui mène vers la Haute-Coteau, Bangui Bangoran et autres, tout est miné par les groupes armés. Et ces groupes armés ne viennent d'où, on ne sait jamais. Parce qu'après les pactes signés à Bangui par la communauté de la Vakaga, qui en ont demandé au gouvernement de reprendre action, ça veut dire de reprendre le périmètre abandonné lors de la création de la rébellion de l'UFDR et après les multiples accords et autres, ils se sont soumis, ils ont demandé au gouvernement de reprendre le territoire avant de faire asseoir son autorité. Effectivement, le colonel avec son équipe, avec les militaires, ils sont là. Mais à pied, ils ne peuvent pas parcourir 1000 km pour chasser les malfaiteurs. Pas seulement Vakaga, même au kilomètre 5 à Bangui, il y a toujours l'insécurité. Combien de fois la Vakaga si vaste et le colonel à pied ne pouvait plus contrôler. Alors le problème de l'insécurité persiste. Et l'autorité de l'État, c'est vrai, ils ont envoyé des hommes sans matériel, sans moyens. Ils ne seront pas à la hauteur de nous donner la sécurité. Voilà à peu près ce qui se dessine un peu à l'horizon. Et qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités, surtout le département de la défense, qu'il vienne auprès de son colonel envoyé ici avec ses hommes, qu'est-ce qu'ils font? Et à chaque fois, ses rapports viennent et les informations qu'il lui donne sur le terrain, ça demande l'appui du département, du gouvernement pour que ces services peuvent être à la hauteur et ramener la paix à la population. Mais sincèrement, dans la ville de Birao, comme disait mon colonel, et
Madame Fatimé,
il y a la sécurité. Ils peuvent le dire. Mais moi qui est à peu près à 125 km d'ici, dans la zone de Birao 2, bientôt la sous-préfecture de Wanga, il y a l'insécurité qui domine. Nous avons notre frontière avec le Tchad. Tous les mâles du Tchad, et à l'heure aujourd'hui, le Tchad aussi a ses problèmes, il est incapable de gérer la frontière entre la République centrafricaine et le nôtre. Il y a des groupes armés de tout genre. On ne les connaît pas, mais ils sévissent dans nos territoires. Ça, c'est le mal que nous subissons.
Et donc, pour vous, vous accusez la porosité des frontières.
Exactement, c'est ça. Et sans tenir compte de parler de celui du Soudan, le Darfour, qui est un noyau de tout le mal du monde. et même le gouvernement central du Khartoum, incapable de contrôler le Darfour, a laissé partir les groupes, les hommes et, en armes, qui le connaissent, qui ne le connaissent pas, qui sont prêts dans nos territoires ici. Et sans tenir aussi vous parler un peu des braconniers qui viennent sévir dans nos parcs nationaux. Alors l'insécurité, moi je ne suis pas sur le même longueur d'onde que le prophète et Fatou, mais sincèrement, dans la Bakaga, ça n'y est pas, je suis d'accord avec eux, mais les pourtours de la préfecture même, il y a l'insécurité qui règne.
On va écouter M. Martin Ségélé. Je rappelle que vous êtes en ligne avec nous dans ce débat depuis Bangui. Vous avez été Premier ministre à l'époque du président Patassé. Que dites-vous des propos des populations de la Vakaga sur leur abandon par les régimes qui se sont succédés à la tête du pays? Sentez-vous aussi coupable en tant qu'ancien locataire de la primature, monsieur?
Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord saluer encore une fois la population de la Vakaga, qui a beaucoup souffert, cela depuis très longtemps. Mais quand j'étais Premier ministre, le ministre qui représentait un peu la Vakaga dans le gouvernement, c'était ce docteur Kalité, paix à son âme. Et nous n'avions pas eu de problème d'insécurité en tant que tel. Il y avait les problèmes saisonniers, des braconniers qui venaient du Soudan ou du Tchad et qui braconnaient dans les parcs nationaux, comme vient de le dire l'honorable député. C'était ça ce problème-là, il n'y avait pas de groupe armé, il n'y avait rien du tout. Et la zone était plutôt développée, parce que ça attirait les touristes de chasse, de vision, etc. Et je me souviens même que le président Patassé, lorsqu'il avait des décisions importantes à prendre, ou bien il voulait prendre un peu de recul, il allait dans la région là-bas pour être vraiment en aise. Mais c'est vrai également que l'État centrafricain, sur le modèle hérité de la colonisation, est un État jacobin. La capitale se trouve à Bangui, à plus de 1200 km de Bulawayo, comme vous l'avez dit. Et dans la construction de l'État, on a tendance à regarder beaucoup plus la capitale que les zones périphériques et encore les zones qui sont les plus éloignées de Bangui. C'est ce qui a fait que les investissements dans les infrastructures se sont plutôt multipliés, maximisés ou concentrés, si vous voulez, dans les zones autour de Bangui, les préfectures autour de Bangui et à Bangui lui-même. Et ces régions-là, il faut le dire, ont été abandonnées elles-mêmes. Je me souviens également que des efforts ont toujours été annoncés par rapport à l'ouverture de routes vers la Vakaga, la connexion avec le Soudan, etc. Et ça fait 60 ans que nous sommes indépendants et tout cela reste des vœux pieux. Donc, nous sommes tous coupables. Il ne s'agit pas pour moi de dire que le MLPC fait mieux que d'autres ou bien que d'autres font moins bien que le MLPC. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'objectivement, les régions périphériques de notre pays, cela est valable également pour le sud-est du pays, la région de Oudé, etc., ce sont des régions qui ont été oubliées dans la faible répartition des investissements en matière d'infrastructure. C'est une réalité. Mais pour revenir à votre question précisément, en matière de paix, pendant que j'étais Premier ministre, il n'y avait pas de groupe armé dans le pays. Mais il y avait des attaques saisonnières de braconniers. Et au sein de la population, c'était des mécontentements par rapport aux délimitations des communes, par exemple la commune Rwanda, par exemple les autres communes de la région. Bon, il y avait ces problèmes-là qui sont des problèmes qui existent partout, problèmes de délimitation de territoire. Mais après, naturellement, les frustrations sont nées à cause de ce type d'ostracisme-là et qui ont débouché sur la création de groupes armés. Et cela a aggravé. Vous prenez l'enclavement, vous prenez l'isolement, vous prenez l'éloignement et vous prenez l'apparition des groupes armés, ça a accentué et accéléré l'isolement de ces régions-là du pays. Et naturellement, c'est une situation qu'il faut rapidement redresser parce que nous sommes une république, une est indivisible et il ne doit pas avoir de différents niveaux, différents échelles de développement. Il devrait être inclusif, global et partout à RCA.
On va revenir, mais n'hésitez pas de nous faire signe si vous voulez prendre la parole pour rebondir, parce que c'est un peu difficile, vous êtes loin de nous, à 1078 km de là où nous produisons ce premier débat délocalisé ici à Biraou. Je reviens vers vous, Monsieur Abras, les conflits armés intercommunautaires qui secouent Biraou ont-ils vraiment fragilisé la région? Si oui, comment?
Oui, si je dis oui, ça a fragilisé le pays, ça veut dire que la ville, pas seulement la ville, et la Vakaga elle-même a été abandonnée parce que l'État ne pouvait plus rester aux côtés de ses populations parce que les groupes armés en ont déjà récupéré le terrain. Mais le mal en est que Au-delà de ces multiples accords de l'UFDR, de MLPC, j'ai dit MLPC, je m'excuse, monsieur le président. Je vais parler de. je vais parler de MLGC et CPJ. Ce problème a été résolu par le précédent régime. Mais à l'heure où je vous parle, la CEDECA avait pris le pouvoir, c'est vrai. Mais au-delà du départ du président Michel,
de Amadou Toudia,
et la population s'est réunie pour dire que non, revenons à la loi fondamentale pour élire un président. Et le président, le professeur Archange Touadéra a été élu au suffrage populaire. Dieu merci. Il a déjà son second mandat. Mais les groupes armés, surtout les nationaux, ceux qui, hier, avaient signé avec le précédent gouvernement et le nouveau gouvernement de ce régime, en a demandé au gouvernement de reprendre le terrain. J'insiste encore. Si le colonel est envoyé ici, ce n'est pas en tant qu'administrateur civil, non. Il a deux casquettes. Il est en même temps militaire, qui doit gérer l'intégrité territoriale de notre territoire et surtout de la préfecture de la Bakaga. Mais avec quoi? Ce n'est pas avec ses galons, c'est avec des matériels, c'est avec des hommes. Je connais un peu le métier de l'armée, mais en réalité, sans ces équipements, sans ces moyens à sa disposition, moi qui continue à immobiliser tous les moyens de communication pour demander secours, pour que la paix revienne, pour que les pauvres populations vaquent à leur devoir, c'est-à-dire se soumettre à la prise de charge de leurs enfants, à condition que la sécurité y est. Voilà, M. Armando, en réalité, c'est vrai, les présences de l'autorité de l'État est là. Nous avons toutes les institutions en place. Le préfet est là, le sous-préfet, l'armée et des différents services. Mais en réalité, il leur manque les moyens pour mettre en œuvre, pour être sur le terrain, pour que le préfet connaisse où se trouve un certain village de Mossabio et d'Aïfa et de Sissi Sela, de Sikitede, et pourquoi pas, on parlait de d'autres, la frontière qui est entre nous et le Soudan, presque le Sud-Soudan aussi. Alors, il va faire quoi en tant que tel? Il est obligé de se retrouver sur place dans son bureau pour pouvoir évacuer les dossiers administratifs, mais pas militaires. Voilà ce que nous demandons encore. Mais
je tourne vers le préfet. Déjà, l'année dernière, les différents leaders communautaires de la Vakaga, des groupes armés ou bien du Bamigi Bangoran ont signé un pacte de non-agression à Bangui, permettant au gouvernement de reprendre son autorité dans les régions en investissant ou en reconstruisant la Vakaga. Où en sommes-nous avec cette initiative? A-t-elle porté vraiment fruit palpable?
Je voudrais déjà remercier de passage le président Martin Ziguele, remercier l'honorable Abbas, remercier madame, parce que nous avons presque le même langage. J'ai écouté le président Ziguele dire que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce problème de sécurité, c'est depuis. Donc, même lorsqu'il était aux affaires, il y avait ce problème-là. Mais peut-être pour lui, c'est qu'il n'y avait pas encore l'éclatement de ces groupes armés, c'est le cas, tout ça. Mais en écoutant l'honorable ici, il confirme bien que les efforts ont été faits par le gouvernement. Mais malheureusement, c'est par manque de moyens. Manque de moyens pourquoi? Vous savez, on est sous embargo. On est sous embargo pour le moment. Hein? Nous avons des hommes. Nous avons quelques hommes qui sont franchement capables, mais on va travailler avec quoi? Ces hommes vont travailler avec quoi par rapport à l'embargo? Nous, les gens ont demandé, le gouvernement a discuté, beaucoup ont demandé cette levée d'embargo. Mais jusqu'à présent...
Est-ce que vous pensez que c'est seulement l'embargo là qui pèse sur vos actions sur le terrain? Parce que votre rôle en tant que tel, en tant que militaire ici, c'est de contrôler les frontières de la puissance africaine, mais vous êtes limité seulement à Birao. C'est ça le problème.
Monsieur le journaliste, dans quel pays au monde on peut manœuvrer à pied sans moyens? Dans quel pays le militaire va manœuvrer sans moyens?
Mais donc, effectivement, ce n'est pas votre problème, c'est ce que M. Abbas a dit, que vous êtes là, vous avez accepté, vous avez la volonté pour travailler, mais vous manquez.
De moyens. Voilà pourquoi je disais que j'étais d'accord avec lui. Il n'y a pas de moyens parce que nous sommes sous embargo.
Madame Attache Fatimé, selon certaines personnes, le mal ne vient toujours que du Nord. Les multiples rébellions ont leur origine ici à Biraou. C'est quoi le vrai problème de cette localité? Peut-être vous pouvez essayer de nous donner quelques informations sur cette situation.
Mais puisque vous savez, Biraou est loin, même s'il y a les présences des autorités, voilà, il y a les militaires, il n'y a pas de véhicules. Même pour faire les patrouilles, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas aller à pied pour faire les patrouilles. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait.
Mais qu'est-ce qui explique les mésententes entre les communautés ici, à chaque fois, à répétition? C'est toujours ça qui provoque l'insécurité et qui bloque aussi le développement de la Vakaga et surtout de Biraou.
Voilà.
Je voudrais rebondir sur cette question. Comme l'a dit l'honorable Abrassissi, et comme je l'ai aussi dit, nous sommes à la frontière. Nous avons en face de nous le Soudan et le Tchad. Mais ceux-là, lorsque la frontière est poreuse, lorsqu'on n'a pas de moyens, les bandits de n'importe quel chemin, n'importe qui, entrent dans la Vakaga et font du n'importe quoi. Et qu'est-ce qui les attire dans la Vakaga? Vous savez, la République centrafricaine est bien riche. Vous savez, il y a une découverte de zones de diamants, de l'or, tout ça. Mais ça les attire. Ils viennent avec des armes. Ils viennent avec des véhicules bien équipés.
Mais oui, si, on va écouter, M. Ziguele, si vous êtes avec nous, pourquoi les frontières centrafricaines de Centrafrique-Soudan sont constamment poreuses? Est-ce cela qui est à l'origine de l'insécurité persistante dans cette partie du pays? Si oui, mais que faire?
Oui, je vous remercie. Ce n'est pas une spécificité centrafricaine, il faut d'abord le préciser. Dans tous les États qui sont dans la situation économique qui est la nôtre, parce que finalement c'est une question d'argent et de volonté politique, hein, de budget, il y en a qui ont de vastes territoires et très peu peuplés, comme la RCA, parce que la RCA c'est 623 000 km², donc c'est à peu près 5 millions d'habitants, moins de 0,7 habitants au km² et plus de 6 000 km de frontières avec les États voisins. Donc il faut des moyens, il faut un budget, il faut une armée, il faut une police de frontières, et ce n'est pas évident dans la situation financière de notre pays. Donc c'est ce qui fait que, même si par ailleurs il peut exister une volonté politique de protéger, de surveiller les frontières, dans la réalité c'est très difficile. Mais il n'y a pas de problème sans solution. Je pense que la solution viendra également d'une certaine forme de décentralisation. Parce que lorsque il y a décentralisation, les collectivités locales peuvent s'organiser pour ne pas assurer, pas se substituer à l'armée, parce que c'est l'armée qui s'occupe de l'intégrité du territoire et donc de la protection des frontières en premier, mais pour servir peut-être de deuxième ou de troisième force pour surveiller les zones où il y a des problèmes récurrents, pour que justement, puisqu'il y a très peu de moyens mobilisables, que les zones, j'allais dire, les plus dangereuses, les zones rouges, soient protégées. Et il y a une deuxième raison, en plus de la protection des frontières, c'est comme l'avait dit tout à l'heure le député Abras et puis le préfet, ils l'ont dit avec raison. Nous sommes frontaliers du Soudan où il y a quand même la zone du Darfour. Mais il n'y a pas que le Darfour, il y a aussi le Cordofan, etc. Le Soudan, malheureusement, depuis 1950 n'est qu'en guerre. Il y a des zones qui échappent, par exemple le Darfour, qui échappe entièrement au contrôle de l'État. Et avec l'éclatement de la crise en Libye, c'est devenu un marché assez ouvert d'armes, de guerre. Tout le monde le sait. Et puis vous avez aussi le Tchad. Le Tchad, depuis 1964, le Tchad n'a pas couru de répit sur le plan sécuritaire dans ces régions-là et surtout dans ces régions frontalières avec le Soudan et la RCA. Donc toutes les conditions sont réunies, si vous voulez, objectivement, pour que ces zones frontalières où habitent nos compatriotes de la Vakaga, mais aussi du Bamingui d'Amouron, mais aussi de la haute Koto, mais aussi du Rumbomo, il ne faut pas l'oublier, toutes ces zones-là sont des zones qui doivent avoir beaucoup plus de moyens d'investissement, de volonté politique, de suivi pour qu'on puisse protéger ces zones-là. Et puis, le préfet vient de le dire, la découverte des minerais, des diamants, d'or, etc. Et vous ajoutez à cela le braconnage sur les éléphants pour l'ivoire ou le rhinocéros pour les cornes. Ça ne fait que maximiser vraiment les risques pour nos populations. Mais, en politique, tous les problèmes peuvent être résolus.
Oui, comme vous avez dit, mais déjà, oui, M. Ziguele, en écoutant M. le Préfet tout à l'heure, il parlait tout à l'heure de ce que le gouvernement est bloqué, à la volonté de faire quelque chose, mais l'embargo est là. Est-ce que c'est une bonne excuse pour le gouvernement en parlant de l'embargo?
Non, mais l'embargo, M. le Préfet est représentant de l'État, donc il tient le discours qui correspond à ses fonctions et à sa position. Et il est militaire, donc il a aussi un devoir de réserve. Il ne peut pas critiquer ce que tout le monde voit. L'embargo date de 5 ans, 6 ans.
l'embargo ne date pas de 20 ans, mais 30 ans. Et puis l'embargo est juste, mais les forces armées sont sur le terrain, travaillent sur le terrain. On ne peut pas affirmer d'un côté que la sécurité revient parce que les forces armées nationales montent en puissance, et de l'autre côté dire que mais il y a quand même l'insécurité à la frontière de la Bakaza parce qu'il y a un embargo. C'est un cas ou un autre, ça ne peut pas être les deux. Donc je crois que ça, c'est un discours que je comprends, n'est-ce pas, de fonctionnaires militaires, mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas qu'en Centrafrique, les problèmes se voient selon les régimes. Ce n'est pas une histoire des régimes de Tadira, des régimes de Djoutoubia, des régimes de Bénivé, des régimes. C'est parce qu'on raisonne comme ça qu'on ne règle pas les problèmes de manière structurelle. Il faut se dire qu'il y a un fait. Nous avons un grand pays, très vaste, qui est plus grand que la France, la Belgique et le Luxembourg réunis. Nous sommes moins de 5 millions d'habitants, donc moins que la population de la ville de Douala au Cameroun. Nous avons 6000 km de frontières, et ces frontières-là, il y a deux pays, particulièrement le Tchad et le Soudan, qui connaissent une instabilité depuis plus de 50 ans, et qui a des mouvements d'armes, d'hommes armés, de combattants, d'anciens combattants, dans tous les sens, et nous devons un peu l'éponge qui aspire cela. Donc il faut que non seulement il y ait la volonté politique, mais qu'il y ait vraiment une organisation de notre espace territorial avec une forte décentralisation pour que les populations locales jouent au moins le rôle de renseignement pour permettre de savoir là où on peut envoyer le peu de force que nous pouvons mobiliser. Parce que aujourd'hui, avec la situation de notre pays, ce serait illusoire de dire que nous allons efficacement protéger les 6000 km de frontières. Nous n'avons ni les moyens, et même ni les moyens financiers aujourd'hui. Mais on peut être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus concret.
Oui, lieutenant-colonel, vous voulez réagir en quelques secondes.
Oui, merci. J'ai bien écouté le président de M. Ziguele dire l'embargo, c'est depuis 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour lui, pour que la sécurité soit menée à bon port. Mais est-ce qu'il peut proposer quelque chose? Si les militaires n'ont rien, est-ce que l'embargo a été déjà levé? Si le président Ziguele peut nous dire que bon, il n'y a plus d'embargo, l'embargo est levé. Et qu'est-ce qu'il peut proposer si l'embargo y est, continue encore? Les militaires vont travailler avec quoi? La force va se déployer comment? S'il peut faire une proposition, ça sera la bienvenue.
Mais donc, est-ce que c'est une bonne excuse, avant que M. Ziguele ne puisse vous répondre, est-ce que c'est une excuse ou vous êtes en train
de... Ce n'est pas une excuse, nous parlons de la réalité. Nous sommes centrafricains, nous parlons de la réalité. Le monde entier nous écoute là, hein? Le monde entier nous écoute. On sait que nous sommes sous embargo. On n'a pas d'armes. Comment dire à un monsieur qui va travailler au bureau, qui n'a pas un stylo, qui n'a pas un bic, qu'est-ce qu'il va faire au bureau?
Oui, monsieur Ziguele, vous voulez réagir avant qu'on donne la parole à madame Fatimé et monsieur Abras qui vous écoutent?
Non, je ne peux pas polémiquer, je ne veux surtout pas polémiquer avec le préfet. J'ai dit qu'il est représentant de l'État et il tient un discours qui correspond à sa position et sa fonction. Mais les forces armées centrafricaines sont sous embargo pour une certaine catégorie d'armes. Il y a une exemption qui a été plusieurs fois autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que le préfet est au courant, le colonel est au courant, et les forces armées aujourd'hui travaillent sur toute l'étendue du territoire. Donc, peut-être qu'on n'a pas tous les moyens, mais il y a suffisamment de moyens pour faire le travail comme ça doit se faire aujourd'hui dans beaucoup de préfectures. Et je demande simplement au préfet de bien écouter le communiqué du ministère de la Défense qui disent que les forces armées travaillent sur le terrain. Je suppose que ce n'est pas avec des bâtons. Donc je ne voudrais pas polémiquer, mais puisque nous parlons de sécurité, nous parlons de la vie des gens. Et naturellement, je suis contre l'embargo. Je suis absolument contre l'embargo. Le MLP, c'est mon parti, est contre l'embargo. Nous voulons que l'embargo soit levé et que les forces armées aient les moyens qu'il faut pour protéger nos populations. Et je rappelle au préfet que je suis député d'une circonscription à Bucaramanga 3 qui est complètement envahi par les groupes armés, le 3R, pour ne pas les citer. Et le combat qu'ils mènent à Bilao, c'est le combat que je mène également dans ma circonscription à Bucaramanga 3. Donc nous avons les mêmes objectifs, la paix pour notre pays. Donc vraiment, je n'ai pas l'intention de communiquer sur ce qui est très important pour notre pays.
Oui, M. Abras, quelques secondes. Vous voulez réagir aussi?
Je remercie le président Ziguele. Je lui jette des fleurs. Mais j'aimerais mieux qu'il, avec sa sagesse, qu'il puisse s'approcher à côté de ses collègues, de ses frères, les présidents des partis politiques, pour les initier à aider le peuple. Le peuple par la loi fondamentale, qui a élu son président au sein des Centrafricains. Et aujourd'hui, on les a donné le pouvoir de gérer le peuple par ses institutions. J'aimerais mieux qu'en tant que président, de ce parti politique et honorable député. Je sais bien qu'il est président d'une commission à l'Assemblée nationale, c'est
sûr. Monsieur Zguilé, vous n'êtes plus, hein, président de la commission de finances. C'est juste un rappel.
Oui, je suis un démocrate et je suis pour l'alternance démocratique, donc je vais passer le relais à quelqu'un d'autre.
Merci, président. Alors, dans ce cas, par votre sagesse, j'aimerais mieux que vous vous rapprochiez à côté de nos frères, les présidents des partis politiques, et de le régime, seulement aider le peuple centrafricain qui a élu le président Touadéra pour que la paix gère sur toute l'étendue du territoire de Centrafrique. Alors, j'aimerais dire ceci. Les militaires, c'est vrai, on connaît leur devoir, c'est un devoir très ingrat. Mais sans métier, sans matériel, sans quoi, ils ne peuvent pas être à la hauteur de ce que le peuple leur demande de le faire. Mais en réalité, le gouvernement, appuyé par les différentes partis politiques, s'ils sincèrement ils veulent que d'ici demain, quelqu'un doit remplacer Touadéra au sein de ces présidents de partis politiques, qui se soumettent à la volonté du peuple, à nos aidants, pour que Bamungu Bangora, la Vagaga, la Haute Koto aient la paix. Parce que nous gérons la triangulaire des frontières. Nous avons le Soudan côté. Nous avons le Tchad, comme disait le président Zeguele, que l'insécurité vient de ces deux pays.
Définitivement.
En réalité, il n'a qu'à nous aider pour que la paix revienne. Voilà, M. Armando.
Oui, Madame Fatimé, pourquoi beaucoup de fonctionnaires et agents de l'État refusent de prendre poste malgré la situation sécuritaire plus ou moins améliorée? Et on parle de Bibi Birabirao toujours. Pour vous, est-ce que cette situation vous dérange en tant que telle, vous qui représentez les femmes et surtout hein, en tant que maman des enfants?
Pour moi, ça me dérange beaucoup. Les fonctionnaires ne veulent pas venir ici, surtout les enseignants. Ils se disent que quand ils viennent ici, on les a déjà sanctionnés, punitions. Voilà pourquoi on les envoie à Birao. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le lycée ne fonctionne pas encore en tant que tel. Les enfants sont à la maison. Les enseignants, il n'y a pas. Et au moins 80 ou 70% des maîtres parents. Mais les enfants vont apprendre quoi? Il faut que vraiment l'État voit quelque chose sur ça. Il y a des enfants qui sont en classe d'examen, mais jusqu'alors, rien n'a été fait. Ils vont composer comment? Le BAC et le BPC, on ne sait pas.
Mais est-ce que c'est l'éloignement de Birao à Bangui qui fait tout cela? Est-ce que c'est l'insécurité sur la route ou bien ce sont les dégradations des routes qui provoquent ce désistement de ces enseignants?
Et là, c'est les enseignants même qui ont leur raison. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas. Et ils restent à Bangui, ils prennent l'argent et les enfants sont en train de souffrir ici. Je crois qu'il y a l'avion à leur disposition pour leur amener et travailler, mais pourquoi ils ne veulent pas venir? Il faut que l'État parle sur ça. Les enfants sont désenclavés, ils ne peuvent pas aller à l'école. Mais on va faire comment? Notre avenir de demain, c'est nos enfants.
Monsieur le préfet, excusez-moi, lorsqu'on parle de Birao, on affecte un fonctionnaire, un agent de l'État Birao, on pense du coup à une sanction infligée à celui-là. Est-ce que c'est tout cela qui provoque
le
résistement?
Moi, je ne comprends pas. Moi, je comprends. Ça veut dire que moi, préfet, depuis 2018 que je suis ici, j'ai été sanctionné pour être ici? Je ne crois pas. Les fonctionnaires qui ne viennent pas, tantôt c'est par rapport à l'éloignement de la route, c'est par rapport à des problèmes de transport, parce que vous savez, notre pays n'a pas d'avion pour le moment. Avant, il y avait le DC-8 qui prenait les fonctionnaires, il y avait même des grands cars Saint-Terre qui les amenaient un peu partout, desservir à l'intérieur du pays. Maintenant, on a des problèmes. Hein? Même un fonctionnaire qui est ici, qui vient à Birao, même quand il a un problème sérieux à Bangui, partir à Bangui régler ce problème, c'est un problème. Alors, aussi la cause, hein, c'est la cause.
Mais qu'est-ce que le gouvernement, vous, représentant du gouvernement ici dans la région, qu'est-ce que vous avez proposé pour les causes de vos collègues, de vos collaborateurs fonctionnaires?
Ben, j'ai donné un exemple. Un exemple, vous savez, préfet, militaire préfet. J'ai un aide de camp militaire, j'ai un conducteur militaire que je les ai laissés à Bangui depuis un an aujourd'hui. Je suis tout seul dans la Vakaga. J'ai construit une cabane dans la Vakaga. C'est pour ça pourquoi? C'est pour prouver aux autres fonctionnaires, c'est pour prouver à tout le monde que sur la République centrafricaine, on est ensemble, on doit vivre ensemble. Donc je n'ai pas de rien, je n'ai jamais été agressé. Dans la Vakagade, plus précisément Birao, jamais du tout.
Mais vous, en tant que militaire, peut-être vous maîtrisez le système de sécurité, mais les autres civils.
Mais on maîtrise ce système de sécurité avec les manibs. Avec les manibs, je maîtrise ce système-là parce que je cohabite avec la population, nous sommes ensemble, nous parlons le même langage pour sécuriser, pour essayer d'avancer, développer notre préfecture.
Oui, monsieur Matabras, bon, moi, quand on s'est qualifié, peut-il être justifié par l'élément de Birao, 1078 km de Bangui, le gouvernement peut-il s'excuser dans ce cas?
Monsieur Armando, j'aimerais mieux que l'État nous écoute par le gouvernement sur ce débat. Qu'ils provoquent un jour un conseil de ministres ici dans la Bakapa. Ils n'ont qu'à décentraliser leur conseil de ministres, bien ici, par fait de leur vue. Tenir le langage du préfet ici, voir ensemble avec lui qu'est-ce qu'il faut faire pour que le gouvernement se mette au travail. Mais si on est loin seulement dire que tout se fait à Bangui et les signatures, les parfaits et autres, et ça s'interdirait le problème de la sécurité dans la Bakaga, dans la Haute-Poto et surtout dans le Nord-Est. En réalité, M. Armando, le préfet venait de dire tout à l'heure qu'il a construit une toute petite hutte pour s'abriter. Ça, ce n'est pas son devoir. Ça, c'est le devoir de l'État. Les édifices de l'État n'y est pas. Comment vous envoyez des fonctionnaires ici? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dormir où? Ok, les réquisitions dans le passé, on a fait perdre des fonctionnaires. Dès qu'il reçoit son billet de transport, il vient là où il prend service, il informe le trésor public pour que ses salaires tombent. Mais la personne attend son salaire, il perd son transport, il vient ici avec les 1000 kilomètres, avec le peu qu'il reçoit, il se nourrit, il envoie quelque chose pour sa famille à Bangui pendant qu'il était ici seul. Mais aller maintenant à Bangui, il faut payer le transport. Le retour au transport, il préférait mieux s'éclipser dans les quartiers à Bangui et rester et attendre chaque fin de mois.
Mais déjà, le transport avec la voie terrestre, ça fait 2 semaines pour arriver à Bangui.
Oui, il y a 2 semaines que les véhicules ne sont pas en panne.
Et en plus de 2 semaines, vous aurez des gens qui vont vous visiter au cours de la route, tout ça.
Voilà. Voilà. Les meilleurs policiers.
Monsieur Ziguele, sur cette question de l'élément qui fait que beaucoup de fonctionnaires ne veulent pas prendre leur poste, qu'en dites-vous?
Oui, bon, je pense que sur cette question, il faut faire un constat, c'est que nos compatriotes ont un strabisme pour Bangui, c'est-à-dire les fonctionnaires, quand ils sont intégrés, ils sont affectés, ils font tout ce qu'il faut pour rester à Bangui pour diverses raisons. Je n'entre pas dans les détails, mais je pense que une fois de plus, c'est à l'État de trouver des mesures incitatives. Il faut penser à des primes d'éloignement. Il faut penser à peut-être construire des résidences pour les fonctionnaires dans ces zones-là, qui sont un peu difficiles, qui sont loin de Bangui, c'est des gens qui passent parfois sans famille, etc., etc. Il faut peut-être créer les conditions, avec les maigres ressources que nous avons, vous serez le coup pour créer les conditions pour que les fonctionnaires puissent y aller parce qu'ils ont des primes d'éloignement, parce qu'ils ont un logement dans lequel ils pourront habiter, etc. Je rappelle quand même que bien après notre indépendance, dans les années 65, 66, 67, on avait des fonctionnaires, des enseignants, des médecins français, italiens, qui étaient affectés dans toutes ces contrées et qui y travaillaient. Mais pourquoi ils y allaient? Parce que qu'ils avaient le logement, ils avaient le logement, les grands fonctionnaires qui ont tous disparu, qui ont été revendus par des différentes autorités, à des notables locaux, etc., et qui ont fait que les gens, ils débarquent dans une ville, ils ne savent pas où habiter. Et puis il y a le fait que nous n'appliquons pas les primes d'éloignement. Tous les fonctionnaires sont payés sur la même base, celui qui est à Bangui et celui qui est à Birao. Celui qui est à Birao a plus de risques, est loin de sa famille, a peut-être des besoins d'équipement supplémentaires, et il fait le choix, qui n'est pas bon, bien sûr, de rester à Bangui alors qu'il est affecté là-bas. Donc, je pense que chaque fois qu'il y a un problème, il n'y a pas d'un côté quelqu'un qui a 100% raison et d'un autre côté quelqu'un qui a 100% tort. La vérité se trouve entre les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'État doit faire pour que les personnes qui sont affectées là-bas puissent être à l'aise et puis donner l'autorité nécessaire au préfet pour que, lorsqu'il vérifie que les fonctionnaires ne soient pas là, que cela soit signalé à l'administration centrale et que des sanctions soient prises. C'est-à-dire, les sanctions positives et les sanctions négatives, lorsqu'elles s'additionnent à la création des conditions, que je veux rappeler encore les primes d'éloignement et le logement, le camp fonctionnaire et tout, il faut que cela soit remis au goût du jour. Dans tous les pays qui nous entourent, les camps fonctionnaires existent en province, sauf en Centrafrique. On a revendu ça, comme j'ai dit, à tous les dignitaires des différents régimes qui se sont passés. Donc il ne faut pas jeter la pierre simplement aux fonctionnaires qui ne veulent pas être affectés. Quel mal nous n'avons pas fait contre notre propre pays. Ça aussi, c'est des problèmes qu'il faut se le dire. Voilà. Et même ça continue. Jusqu'à aujourd'hui, on voit des domaines de l'État comme ça, alors que ces domaines-là sont destinés à loger des habitations, à abriter des habitations, à loger des fonctionnaires, etc., etc. Donc, balayons devant nos portes et puis je pense que tout ira pour le mieux.
Oui, M. Ziguené, merci. Nous allons revenir ici dans le studio de Radio Yata, ici à Birao que nous reçoit. Mais en attendant, avant d'écouter les centres africains de Birao que nous avons interrogés, sur un autre thème, nous changeons directement le cap et donnent leur point de vue sur le dialogue républicain préparation. Nous les écoutons d'abord.
Nous voulons la paix, nous voulons que le dialogue là, ça soit inclusif.
Et effectivement, nous attendons ce dialogue. Les Centrafricains, on a besoin de la paix. Il faut que tout le monde se retrouve.
La première chose, c'est la sécurité. C'est le problème de la santé. Et la troisième chose, c'est le problème de la réconciliation de la Bakake en général à la République Centrafricaine. Si il y avait un dialogue inclusif, il faut appeler à la population de la Bakaga nombreuses pour aller débattre leurs besoins.
Les femmes aussi veulent parler au nom de la Bakaga.
On ne peut pas construire une ville ou bien une république en un seul jour. S'il avait mis un peu long, quand même, il va penser.
C'est en restant autour de la table, que ce soit du côté du gouvernement, celle de la population centrafricaine, même que ce soit les leaders avec tous les couches sociaux, qu'on peut trouver des solutions. Et effectivement que Birao est abandonné. Espérons, après ce dialogue, il peut aussi bien gouverner et puis pour réparer tout ce qui est endommagé au niveau de Birao.
Nous tous, nous devons participer à ce dialogue, que ce soit un dialogue définitif pour la Bakaga.
C'était donc les Centrafricains de Birao ici qui donnent leur point de vue sur le dialogue en préparation à Bangui, le dialogue dit républicain par le gouvernement. Madame Attache Fatime, quel commentaire faites-vous des propos des Centrafricains que vous venez d'écouter?
C'est une bonne chose pour faire le dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas la paix. Il faut qu'il y ait un dialogue pour que la paix soit définitivement dans Bakaga et République centrafricaine en général. Je suis d'accord avec la population centrafricaine pour un dialogue.
Mais oui, vous parlez du dialogue ici, mais est-ce que cet exemple ne peut pas servir entre les deux communautés, les couches qui se regardaient en chien défaillance ou pour vraiment traiter les problèmes, les litiges de la population, des communautés ici?
Maintenant, il n'y a plus de litiges. On s'est réconciliés déjà, il n'y a plus de litiges, il y a la paix.
Oui, mais il y a eu des conflits. Vous avez écouté ces derniers temps dans le de Birao ici, non? Vous avez oublié cette histoire?
C'est déjà fini.
Monsieur le préfet, je rappelle que vous êtes...
C'est déjà fini.
Lieutenant-colonel Lénard Mbélé sur cette question, le commentaire des Centrafricains que vous venez d'écouter.
Je voudrais vous dire que notre mal vient de l'extérieur aussi. Nos problèmes viennent de l'extérieur aussi. Parce que, vous savez... Nous, Centrafricains, hein, vous avez écouté le long de notre débat ici, nous parlons presque d'une même voix, mais il y a des gens de l'extérieur qui ne veulent pas, qui excitent certains les autres pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Parce qu'ils savent que s'il y a dialogue, les Centrafricains, les Centrafricaines vont être ensemble, tout autour d'une table, parler d'une même voix et ils seront forts. Contre eux. Donc, le mal vient de l'extérieur aussi. Je pourrais même vous donner quelques exemples.
Oui, c'est
vrai. Oui, vous savez, hein, vous savez, qu'est-ce qui est en train de se passer pour le moment? Pour le moment, on dit que le visa de Centrafrique est supprimé. On dit que il faut faire venir des groupes de force CPC. Il y a beaucoup de. On dit. C'est pourquoi ça là? Quel visa on supprime le visa des Centrafricains par rapport à un problème? Quel est ce problème? C'est un problème judiciaire. Il y a eu un petit problème que la police, la gendarmerie...
Mais de tout ce que vous avez développé, monsieur le préfet, oui. Déjà le dialogue est en préparation, l'opposition qui était sortie hier de ce débat est revenue déjà autour de la table pour préparer ces pourparlers en cours. Et selon vous, ce que la population a dit, inclusivité de tout, même les groupes armés selon les eux, et même aussi de certaines personnes, pour que la paix soit définitivement retrouvée?
Je remercie l'opposition qui a compris, l'opposition qui s'est mise dans la tâche des Centrafricains pour revenir sur cette table par rapport à ce dialogue. Mais on ne va pas prendre tout le monde pour un dialogue. Nous avons même quel moyen? Le gouvernement quel moyen? J'ai écouté M. Ziguele, l'honorable Ziguele, dire que y a un problème, on attend l'argent des autres pays pour financer, pour aller au dialogue. C'est ça aussi, on ne prendra pas tout le monde pour le dialogue. Vous savez, le gouvernement a dit
la nécessité pour le besoin de la paix. On ne peut pas quand même mettre de côté, selon vous, ceux qui veulent participer pour parler et dire leur vérité par rapport à la situation du pays.
Vous avez écouté le centrafricain lambda. C'est tout le monde qui va aller au dialogue. C'est tout le monde. Mais on ira. Tout le monde ira avec un moyen.
Le temps est parti. Nous presse, monsieur Ramat Abras, sur cette question de dialogue inclusif ou autre. Qu'en dites-vous?
Je n'ai pas beaucoup à dire parce que c'est la même situation qu'on reprend. Parce que c'est multiple dialogue qui a été fait en République centrafricaine. N'ont pas d'effet. Mais Dieu merci, avec ce qui arrivera bientôt, j'aimerais mieux que les Centrafricains se ressaisissent pour que ce dialogue soit la dernière, ce dialogue soit le dernier des dialogues, pour que nous sortons définitivement de cette ornière. Mais sincèrement, on a besoin de ce dialogue, c'est vrai. Mais avec qui? Nous voulons ce cadre intellectuellement mûrement assis, se retrouver autour de la table, discuter ensemble, dans l'objectif de relever le défi de nos défaillances depuis la colonisation. Et nous avons souhaité ressortir de là pour être indépendants. Mais malheureusement, on a creusé un autre fossé pour s'engrouper. Mais si sincèrement on se rend compte de nos erreurs, on reviendra par ce dialogue pour être qu'il soit la dernière et qu'ils ne se reprennent plus. Et c'est à eux qui sont les phares de nous guider, nous qui sommes un peu aveugles ou bien bornes, de nous déporter au bon port. Mais en réalité, tout ce que venait de dire le préfet, si sincèrement le Centrafricain est nationaliste et a un seul objectif de relever les défis pour que son pays avance à grands pas comme les autres, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et pourquoi pas dans le monde entier, c'est de dire le Centrafricain d'abord et la République centrafricaine d'abord. Mais le mal en est qu'on est Centrafricain par les papiers, la carte d'identité, le passeport, les si c'est là, et ton fonction de ministre, de président, de tel, et le reste n'est pas ancré dans le cœur pour dire que moi je suis centrafricain, mon objectif d'être cuit pour relever le défi, c'est comme demande la loi fondamentale, que le peuple est derrière. Alors c'est ça qui fait qu'à chaque fois, si aujourd'hui je suis président de parti politique, ou bien je suis un tel, un cadre qui n'est pas nommé à un poste qui n'a pas de fruit pour moi, je vais pour ceux qui n'ont pas assez de connaissances pour dire que moi j'ai des armes, ce régime est contre moi, créons ceci, cela, allons-y faire quelque chose. Et c'est comme ça, nuit et jour, les rébellions se multiplient. Mais si sincèrement ce dialogue peut nous permettre d'enterrer les haches de guerre et qu'ils ne reviennent plus, je suis d'accord.
Oui, M. Ziguené, quelques commentaires, je vous donne 2 minutes et demie sur cette situation du dialogue et les propos des Centrafricains de Birao avec leur souhait que vous venez d'écouter.
Oui, je salue la clairvoyance de ceux que vous avez interviewés et qui ont donné leur opinion sur le dialogue. Nous sommes en République, c'est-à-dire nous partageons ensemble un territoire, une nation, nous sommes en train de construire une nation. Et le dialogue, on ne peut pas dire qu'il y a eu trop de dialogue ou qu'il n'y en a pas assez. Le dialogue est permanent. Le dialogue doit être permanent. Le dialogue se fait déjà à l'Assemblée nationale pour les partis qui sont à l'Assemblée, mais le dialogue entre les citoyens de ce pays et ceux qui ont été désignés par le peuple, c'est quand même le peuple qui leur délègue. Voilà. Ils ont le droit, ils ont le devoir, de temps en temps, d'organiser ce dialogue-là pour que la population qui est détentrice du pouvoir, suprême, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas inverser le rôle. Nous ne sommes pas dans un royaume. C'est dans un royaume que le roi, et même encore dans un royaume, le roi a un conseil royal, comme au Maroc. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. La souveraineté appartient au peuple. Et si les Centrafricains sont d'accord pour qu'on aille au dialogue inclusif, il faut qu'on aille au dialogue inclusif et que les représentants, parce que c'est vrai, il n'y aura pas 6 5 millions de Centrafricains dans une salle, mais les représentants attitrés, les représentants de différentes couches sociales, intérêts, professions, etc., etc., et qu'on se retrouve avec ceux qui sèment le trouble dans le pays, c'est-à-dire les représentants des groupes armés, les Centrafricains qui sont dans les groupes armés et qui ont créé l'instabilité dans leur pays, il faut qu'ils viennent s'expliquer. Je ne vois pas pourquoi on me dit que le dialogue ne peut pas être inclusif, pourquoi on ne parle pas à Bozizé, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on dit qu'on ne parle pas à Bozizé, il était président ici, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient des premiers ministres, d'autres étaient ministres, d'autres étaient directeurs de cabinet, ils étaient dans le même parti, le KNK, ils portaient le même tenue, ils faisaient le même congrès, ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble, pourquoi on ne peut pas parler à Bozizé? Vous préférez que les gens restent à l'extérieur et que de temps en temps ils viennent semer les troubles et l'instabilité dans le pays, ou bien il faut leur parler une fois et régler ce problème définitivement. Je pense que ce que les Africains doivent arrêter, c'est d'avoir un double langage et un langage de peur. Vous avez peur de quoi? C'est notre pays. Pour que la paix y revienne, il faut parler avec ceux qui sèment le trouble dans le pays. Et après que la justice s'occupe, que la politique, c'est la réconciliation. La politique, c'est l'apaisement. La politique, c'est le rassemblement. Et la justice, c'est le droit. Et la justice viendra après et frappera tous ceux qui auront fait des torts contre ce pays. Ne mélangeons pas les choses et surtout, ne parlons pas sous l'effet de la peur. Si nous voulons que la paix revienne dans notre pays, il faut conseiller au président Touadéra de faire un dialogue inclusif.
Oui.
Le président Mahamat Diouf du Tchad, le fait a tué son père, mais il est allé le chercher pour aller faire un dialogue au Qatar. Et donc, pourquoi aujourd'hui, ici, cela ne se ferait pas?
Vous l'avez déjà dit, M. Sibéré.
Je ne sais pas la vérité et l'intérêt de notre pays. Il faut que nous soyons responsables. Le pays doit avoir la paix.
Le temps nous presse.
Il faut qu'on arrive à la paix.
Le temps nous presse, monsieur Abras, vous voulez dire quelque chose? Je vous donne quelques secondes.
Un petit mot,
c'est
au président Zeguele. Monsieur le président, nous n'enterrons pas la hache du dialogue. Mais nous aimerions mieux se retrouver toujours sincèrement autour de la table pour discuter. Mais qu'on ne parle pas des mimos, monsieur le président. Tout le mal vient que des mimos, parce qu'on ne dit pas la réalité sur le terrain. Chacun tourne autour de la table pour une écouille dans un cadran pour ne pas faire donner l'heure exacte. Voilà à peu près ce que je voulais dire.
Oui, monsieur le professeur, vous voulez répondre donc, peux, sur ce que monsieur Zeguele a dit? Je vois, vous avez remis la tête.
J'ai écouté monsieur Zeguele.
C'est bon.
Dire qu'il faut que ce soit un dialogue inclusif, c'est tout à fait normal, c'est bien, mais il faudra que le président, M. Zeguele, comprenne aussi que Bozizé était revenu à l'exil, il était à Bangui, hein, et à un moment donné, il est parti de lui-même, on ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas chassé de Bangui, il est parti de lui-même, quelque part, cherchant à revenir par force, par-ci, par-là. C'était la volonté de la population, la volonté du peuple qui a demandé à ce qu'il puisse être devant ces faits pour répondre. Si moi, je suis centrafricain et qu'il y ait quelque chose, je n'hésiterai pas à aller devant la justice et pour répondre aux faits.
Monsieur le préfet, merci beaucoup. Fin de ce premier débat politique délocalisé à l'intérieur du pays. Radio de Kenouka est à la rencontre de ses auditeurs. Patara, réalisé en direct de Birao, distant de 1072 km de Bangui, la capitale centrafricaine. Nous avons reçu Madame Attache Fatimé, femme leader. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Madame.
Merci beaucoup.
Mahamat Abras, merci aussi à vous.
Merci Monsieur.
Ancien député de Birao de 2005 à 2010, ancien chargé de mission du DDR et ancien attaché consulaire de l'ambassade de la République centrafricaine à Niala au Soudan. Monsieur Martin Zeguele, président du MLPC, membre de l'opposition démocratique. Merci aussi à vous depuis Bangui.
Merci à vous, merci à mes co-débatteurs, merci à tous mes compatriotes de la Vakaga. Et je vous souhaite un bon séjour à Vakaga et je félicite Radio de Kenouka d'avoir désenclavé sur le plan communicationnel cette grande et historique ville de Birao.
Lieutenant colonel Léonard Béné, préfet de la Vakaga, merci pour votre accueil et participation au débat politique de Radio de Kenouka.
Merci, je voudrais remercier le président MLPC, remercier l'honorable Abras, remercier Madame Fatimé, remercier tous les auditeurs de Nekeluka, et puis je leur dis qu'on a parlé, on a en tant que centrafricain, hein, cela va de notre devoir de être toujours ensemble. Merci.
Voilà, la partie technique était assurée par Charles Lena et Darmadé Doré. J'ai bénéficié de l'appui de Ramadan Abdelkader, Nina Verdiani Aboudé et de Gilles Dasnabiza, responsable de programme de Radio Nekeluka et de nos confrères de Radio Yata de Birao. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir.